Europe 1.
Bonjour à tous, un grand rendez-vous spécial après l'attaque iranienne sur Israël. Une pluie de drones et de missiles sans précédent. Avalanche de condamnations dont celle des États-Unis. Joe Biden assure son soutien inébranlable, affirmant toutefois que les États-Unis ne participeraient pas à une quelconque offensive militaire. Et à l'instant, réaction d'Emmanuel Macron, le président français condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. Emmanuel Macron exprime sa solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires, dit-il, et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Voici la réaction du président français. Et toute la question est de savoir à présent quelle sera la riposte israélienne. Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de guerre tout à l'heure dans l'après-midi. Quelle sera la nature également de cette riposte? L'attaque est inédite. C'est une offensive directe du régime iranien sur le sol israélien. Le mot historique n'est pas galvaudé. Sommes-nous dans un moment de basculement inédit? Je remercie nos invités dans ce studio. Bonjour à vous, Guillaume Bigot.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes politologue, essayiste également. Pierre Conessa est également présent. Bonjour à vous.
Bonjour.
Spécialiste Pierre Conessa des questions stratégiques internationales militaires, auteur de nombreux ouvrages dont Vendre la guerre et le dernier en date, État des lieux de salafisme en France aux éditions de l'Aube. Je vous remercie, messieurs. Votre analyse va nous être très précieuse. Nous sommes actuellement en direct avec Olivier Rafovitch. Bonjour à vous, monsieur Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous faire un point sur la situation à l'heure actuelle, alors que le régime iranien vient d'annoncer que ses objectifs ont été atteints?
Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission ce matin. Le point, c'est que l'Iran a attaqué cette nuit Israël avec plus de 330 drones, missiles de croisière et missiles balistiques. 99% des missiles ont été détruits. Aucun drone et aucun missile de croisière a pu rentrer en territoire israélien. Il y a eu des tirs qui sont venus du Yémen par les Houthis, d'Irak par les milices. Par les milices pro-iraniennes chiites, du Hezbollah également au sud du Liban, et évidemment du territoire iranien. Et du côté israélien, encore une fois, nous avons une base aérienne dans le sud qui a été légèrement touchée, mais aucun problème pour ni décollage et atterrissage de nos appareils. Encore une fois, l'armée de l'air et la défense antiaérienne et anti-missiles ont joué un rôle très important. Et je voudrais aussi rappeler la coordination, la collaboration avec des pays alliés et amis qui ont participé à l'interception de ces missiles, de ces drones, et qui ont permis effectivement la protection de l'État d'Israël et du peuple israélien.
Olivier Rafovitch, qui a composé ou qui compose cette coalition défensive? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France également, c'est ce qu'affirme Tsahal?
La France a également joué un rôle, mais pas seulement. Il y a d'autres pays également dans la région qui ont joué un rôle important. Et ces pays-là, effectivement, avec Israël, ont participé à la protection d'Israël, et également à la protection de toute la région pour éviter, je dirais, une escalade de violence dû au régime islamique d'Iran.
Toute la question à présent est de savoir quelle sera la suite. Y aura-t-il une riposte? Est-ce que je peux vous poser la question différemment, Olivier Rafovitch? Est-ce que vous imaginez, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, qu'il ne puisse pas y avoir de riposte, de réponse israélienne à une telle attaque?
Vous savez, dans mon poste, je ne suis pas tellement dans la position d'imaginer. Donc, laissons l'imagination à ceux qui imaginent. Et alors nous parlons, encore une fois, nous sommes après cette attaque qui a été encore une fois à 99% interceptée par l'armée israélienne et par d'autres États qui ont participé à cette interception. Et c'est là où je peux seulement vous dire ce qui est arrivé et ce qui se passe. Alors nous parlons.
Et pour la suite, tous les scénarios sont sur la table. Rien n'est exclu en tous les cas, à vous entendre.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, alors nous parlons, il y a eu donc ces interceptions à 99% des missiles de croisière, des drones et des missiles balistiques. Et au-delà de cela, ça serait une erreur de parler de l'avenir, du futur ou de choses qui, alors nous parlons, n'ont pas d'éléments concrets.
Bien sûr, nous attendons donc la suite et ce qui sera décidé. Merci Olivier Arpovitch, porte-parole de l'armée israélienne, pour ce point de la situation. Nous sommes en studio avec Guillaume Bigot et Pierre Conessa. Messieurs, monsieur Conessa, c'est la question, quelle forme pourrait prendre à présent la riposte d'Israël, sachant quand même, c'est un élément important, que les États-Unis, tout en affirmant leur soutien indéfectible, affirment qu'ils ne participeraient à aucune intervention militaire. Cet élément-là peut nous dire quelque chose de la suite, Pierre Conessa.
Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face. Trois même. On a les Mollahs, on a Netanyahou et on a le Hamas. Bah, écoutez, j'espère qu'on va garder nos distances.
Alors le chiffre, hélas, évidemment, de morts à Gaza est très important. Je rappelle que le chiffre que vous évoquez, celui qui est donné par le Hamas, qui est une organisation terroriste. Et vous rappelez, Pierre Conessa a raison, que le régime iranien a imputé à Israël la frappe contre le consulat iranien à Damas. Israël n'a pas du tout confirmé. Donc vous affirmez que tout a commencé à partir de là. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que tout a commencé auparavant déjà, qu'il y a depuis très longtemps, en fait, en réalité.
C'est voilà. Sûr. Mais enfin, le fait de rappeler que c'est la première fois qu'il y a une confrontation directe prouve qu'en en dépit de la logomachie des Mollahs depuis 79, si vous voulez, ils se sont jamais risqués non plus à affronter directement Israël. Toujours des guerres de proxy par le Hezbollah, etc. Bon. Donc, on sait que ce sont des gens qui ont une grande gueule, mais qui sont quand même extrêmement prudents. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en face un Netanyahou qui, lui, pense utiliser la guerre, y compris pour regagner les élections israéliennes. Il y a une opposition en Israël, parce qu'on a l'impression, et avec raison, qui disent, mais ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est préparer la prochaine guerre avec les Palestiniens. Que voulez-vous que les enfants des 33 000 morts pensent demain de ce qu'il faut mener contre Israël? Donc on est dans une logique de l'escalade, et je ne suis pas sûr que toutes les fautes soient du côté du Hamas et du côté de l'Iran.
On va analyser tout cela avec le recul, si je puis dire, alors que évidemment nous sommes encore avec après le choc, la sidération d'une attaque qui est qualifiée comme historique et inédite. Guillaume Bigot, est-ce que vous reprenez ces termes? Il est vrai que l'ampleur de cette pluie de drones et de missiles qui a été contrée effectivement par la défense israélienne et par la coalition de défense, donc USA, Grande-Bretagne, Jordanie et un peu la France, selon Olivier Rafovitch, reste quelque chose d'inédit aujourd'hui.
Il faudrait remonter à 597 avant Jésus-Christ, à Nabucodonosor, pour avoir une attaque directe. Alors c'était Babylone, c'était les Assyriens, et voilà, pour avoir des Perses, disons, attaquer directement Israël, même s'il y a eu une interruption de la présence d'Israël dans la région entre-temps, ça a échappé à personne. Oui, je suis assez d'accord, il y a un côté grande gueule, et en fait, il n'y a pas d'attaque directe. On a quand même été assez surpris. Ceux qui pensaient qu'il y avait, avec le 7 octobre, le signal de quelque chose comme une attaque coordonnées, parce que l'attaque du 7 octobre, beaucoup de commentateurs ont dit, je crois qu'ils ont tout à fait raison, c'est quand même quelque chose de très sophistiqué, de très bien organisé, de très vicieux, évidemment abominable sur le plan moral, mais ils n'ont pas fait ça tout seuls. Est-ce qu'il y a la main des Iraniens derrière? On peut pas évidemment le prouver. Les Israéliens en sont absolument convaincus, bien évidemment. En tout cas, le régime iranien, rappelons quand même que soir et matin, il y avait quand même des dirigeants iraniens qui parle de brûler Israël, d'éradiquer Israël, etc. Et même si on peut, de loin, se dire que la dissuasion nucléaire, ça fonctionne. Ça a fonctionné entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Ça continue d'une certaine façon à fonctionner. Ça a fonctionné entre deux belligérants très, très vindicatifs, hein, le Pakistan et l'Inde. Alors nous, on peut se dire, bah oui, si l'Iran avait la bombe atomique et Israël l'a déjà, même officieusement, ça créerait un équilibre de la terreur. Sauf que nous ne sommes pas israéliens. Et quand des Israéliens entendent des déclarations qui sont... qui sont non seulement des déclarations à l'emporte-pièce et inflammables, mais des déclarations qui sont presque, qui sont de nature religieuse, en disant c'est un devoir religieux d'effacer cet état de la carte. N'oublions pas d'où vient Israël, quelle est aussi la légitimité internationale d'Israël. Donc l'idée qu'ils peuvent être rayés de la carte est une idée qui ne s'est pas vraiment effacée après le 7 octobre, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ça, il faut vraiment se mettre dans la psychologie des acteurs. Mais au lendemain du 7 octobre, les Iraniens n'ont pas bougé un, ils n'ont pas fait bouger leur proxy non plus. Il y a eu quelques petits, des piqûres d'épingles dans le nord d'Israël. On s'attendait à quelque chose de très coordonné. Ce n'est pas venu. Souvenez-vous aussi des discours des chefs du Hezbollah qui étaient attendus. Alors, c'est un peu comme avant de monter sur un ring. Vous savez, là, ça va être vraiment très, 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 très viril. Et en fait, à chaque fois, ça a fait pchit. Donc là, oui, il y a quelque chose. Il y a une surprise, évidemment. C'est très surprenant et c'est aussi très inquiétant pour l'État d'Israël et pour les Israéliens.
Très inquiétant, parce que vous rappelez, Guillaume Bigot, que l'Iran, qui aura probablement, en tout cas qui est en capacité d'avoir l'arme nucléaire demain ou à l'avenir, rappelle régulièrement, Pierre connaît ça, qu'elle veut la destruction pure et simple de l'État d'Israël, de l'État hébreu, la destruction de la carte, rayée de la carte. C'est le seul pays dans la région qui le souhaite.
Oui, disons qu'il s'est passé des évolutions stratégiques qui avaient de quoi effectivement remettre en jeu, si vous voulez, le débat. Rappelez-vous cette normalisation entre les États du Golfe et Israël. Or, c'était les plus radicaux, d'autant plus qu'ils ne participaient pas aux guerres en général. L'Arabie Saoudite avait envoyé une brigade au moment de la guerre des six jours. Ils étaient arrivés trop tard, donc, si vous voulez, on avait cette espèce d'épouvantail qui était le discours officiel. Donc en fait, les pays arabes se sont toujours protégés de la cause palestinienne en expliquant qu'il fallait détruire Israël, mais sans jamais rien faire de très précis. Hein. Bon. Je signale par exemple que le Canada a accueilli autant de Gazaouis que l'Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'on veut bien dénoncer la crise de Gaza, mais ils expliquent qu'ils veulent pas de réfugiés parce qu'il faut pas affaiblir la cause palestinienne. Donc on a une bande d'hypocrites, si vous voulez, qui est assez fournie, il faut le reconnaître. Bon. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où vous avez aussi du côté israélien des radicaux. Vous avez un type qui s'appelle Ben-Gvir qui voulait lui utiliser la bombe contre Gaza. Bon, visiblement, heureusement qu'il en connaît pas la portée, parce que sinon Israël n'aurait pas été épargné, si vous voulez, par l'usage d'une bombe. Vous en avez d'autres, effectivement, qui continuent à coloniser la Cisjordanie. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui des colonies illégales menées par des juifs radicaux, protégées par Tsahal, avec des routes interdites aux Palestiniens, et ça se fait alors qu'on parle de l'Iran. Donc il faudrait arrêter de penser que la faute est d'un seul côté.
Alors comment faire à partir de là? On va marquer une courte pause et en parler, parce que semble-t-il, messieurs, la diplomatie a échoué, en tout cas n'a rien empêché pour le moment de ces attaques inédites. Une courte pause et on se retrouve dans ce grand rendez-vous spécial.
10h, 11h,
le grand rendez-vous Europe 1.
Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous spécial. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est une émission après une attaque inédite sur le sol israélien, plus de drones et de missiles, avalanche de réactions et de condamnations internationales. L'Iran qui s'est félicité de cette opération et affirme qu'il s'est vengé, rappelant que le régime iranien impute à Israël la frappe contre un consulat iranien à Damas. Et toute la question est de savoir à présent si on va vers un basculement ou si c'est une parenthèse qui se referme. C'est ce qu'affirme ce matin l'Iran, qui indique que l'attaque est terminée. C'est ce que nous précise notre correspondant d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage.
Ce matin, l'attaque de l'Iran semble définitivement terminée. D'ailleurs, Israël annonce la réouverture de son espace aérien fermé depuis hier soir. Et Ben Gurion, le seul aéroport international du pays, reprend du service. Par mesure de précaution, les écoles, les universités restent fermées. Mais l'armée israélienne estime que les risques de nouveaux tirs depuis l'Iran sont minimes. Elle fait donc le bilan et assure avoir largement déjoué l'attaque. Selon son porte-parole, 99% des tirs, missiles comme drones, ont été abattus, pour la plupart avant même d'entrer dans l'espace aérien israélien. Les États-Unis et la Grande-Bretagne y ont aussi contribué. Alors malgré le succès de la défense aérienne, après cette attaque pour les Israéliens, les craintes d'une guerre directe avec Téhéran ne sont pas vraiment dissipées. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que cette attaque va entraîner une riposte israélienne? Si oui, de quelle nature? Joe Biden tente de dissuader Benjamin Netanyahou. Ceux qui nous attaquent seront frappés en retour, avait déclaré hier soir le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou prévoit à nouveau de réunir son cabinet de guerre dans la journée.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même de, qui nous interpelle, Pierre Conessa et Guillaume Bigot, c'est qu'il y a une forme toujours de sidération. Hier encore, plusieurs experts affirmaient qu'il ne pouvait pas y avoir d'attaque iranienne. Ça rappelle un petit peu, comparaison n'est pas raison, mais ce qui s'était passé avec l'attaque russe en Ukraine. Pourquoi est-ce que de notre point de vue occidental, on n'arrive pas aujourd'hui à imaginer, anticiper et même à se rendre compte de la gravité de tels événements?
Bon, d'abord, il y a l'évacuation mentale du champ mental de la guerre. Ça fait très longtemps, même si là, elle est de retour au grand galop. La guerre, elle avait jamais vraiment, elle avait vraiment jamais vraiment disparu. Mais qu'est-ce que la guerre, dit Platon, celui qui a vu la guerre en face n'en est pas revenu et mort. La guerre, c'est quand on peut la perdre précisément. Or, nous n'avons plus les Occidentaux menés de guerre que nous pouvions perdre depuis si longtemps. Donc, on l'a sorti de notre champ mental. Mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez complexe à comprendre. C'est là, nous avons un raisonnement, disons rationnel. Pas toujours, on a de l'irrationalité, mais l'Occident raisonne de manière rationnelle, et l'Occident a des buts et des finalités rationnelles. Et en face, je veux dire en face, on peut pas tout inclure non plus, mais si on prend les Iraniens, par exemple, si on prend les gens qui sont très hostiles à Israël dans la région, et notamment les fanatiques religieux, de tout poil, ils peuvent avoir une grande rationalité dans les moyens, mais pas une grande rationalité dans leurs buts. Et vous pouvez avoir un but absolument, je dirais, millénariste, c'était le cas de Ben Laden, et en même temps déployer une rationalité redoutable, telle que le bilan coût-avantage que vous allez infliger à l'ennemi est terrifiant. C'est ça la difficulté. Et quand j'entends oui, mais alors les Israéliens disent il faut parler arabe, il faut les taper fort, etc. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment de sous-estimer l'ennemi. Quand on fait la guerre, il faut surtout pas sous-estimer l'ennemi en réalité. Et là, c'est inquiétant. Et je me demande d'ailleurs, parce que ce sont des grands joueurs d'échecs, les Iraniens. Alors, Pierre Conessa a raison, je me range plutôt à son avis quand il dit les Israéliens, le 1er avril, ont attaqué, en fait, ce qui était un territoire iranien à l'étranger, en l'occurrence à Damas.
Inédit, hein, ce qui est inédit, attaquer une antenne
voilà,
consulaire.
Ouais. Deux généraux de Al-Hodz et sept gardiens de la Révolution. Qu'ils aient frappé des ennemis, ils le font toujours et c'est normal, mais là, ils ont vraiment, c'est en violation du droit international et surtout, ça obligeait l'appareil d'État iranien à réagir. En fait, d'une part, en dehors même du fait qu'ils font ça sous le regard des ennemis d'Israël et ils jouent cette carte d'être les leaders en fait de l'axe du refus. Donc ça les obligeait à réagir. Mais de quelle manière ont-ils réagi? Ils auraient pu frapper un consulat israélien, ils auraient pu frapper une ambassade israélienne. Non, là ils ont joué le grand jeu, ils ont déployé le grand jeu. Alors en même temps, ils l'ont fait avec quelque chose qui pouvait être tout à fait intercepté. Et je pense qu'ils savaient que ça pouvait être intercepté et que ça ne ferait pas de mort à l'arrivée. Et donc j'en termine là dans mon raisonnement. Pour moi, c'est quand même une démonstration assez générale du manque de leadership américain. Les Américains n'ont pas été capables d'empêcher les Israéliens de frapper le consulat, de la même façon que les Israéliens ne sont pas capables de retenir la main des Israéliens à Gaza et à Rafah, de la même façon. Là, au fait, c'est un dilemme. Et j'en reviens à cette idée que les Iraniens sont des joueurs d'échecs parce que soit Israël riposte contre l'avis des Américains, quid du leadership américain, hein, soit Israël ne riposte pas. Et ben là, pour Israël, allié des États-Unis, c'est aussi un aveu de faiblesse.
Mais c'est la question majeure que vous posez, Guillaume Bigot. Pierre Conessa, c'est la véritable question. Quand je disais tout à l'heure que peut encore faire la diplomatie, je parle évidemment surtout et essentiellement de la diplomatie américaine. Joe Biden a eu des mots extrêmement pesés, hein, je vous les rappelle. La Maison Blanche a réaffirmé son soutien inébranlable, comme à chaque fois, d'Israël, mais affirmant qu'elle ne participerait pas à une quelconque offensive militaire. Donc mettant déjà, si je peux dire, des lignes rouges à une riposte israélienne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la suite?
Je crois que Gaza a montré les fissures que le camp de soutien à Israël commence à marquer. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui trouvent que la répression consécutive à ce massacre effroyable qu'a fait le Hamas est totalement disproportionnée. Et donc vous avez des gens qui, depuis un certain temps, qui étaient plutôt sur des positions très pro-israéliennes, commencent à trouver que Netanyahou n'est pas le meilleur des leaders possibles pour défendre la cause israélienne. Il y a même des gens qui disent que c'est le pire défenseur de la cause israélienne. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il s'est passé une évolution dont nous sommes d'ailleurs les symboles. Après la guerre du Golfe, tout à coup, l'URSS ayant disparu, commence à se peupler les plateaux télé d'experts comme vous et moi, qui est ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire des tas de gens qui disent qu'il faut aller faire la guerre, mais ils y vont plus eux-mêmes, hein, vous avez remarqué. Donc vous avez des intellectuels médiatiques, je n'en citerai personne, vous avez d'anciens, des journalistes, vous avez des humanitaires, etc. Mais toujours avec l'idée que puisqu'on a gagné la guerre du Golfe en 120 heures, on a un moyen militaire de résoudre la quasi-totalité des crises de la planète. Bon, or, aucune de ces interventions militaires n'a contribué à résoudre la crise. Et donc vous avez toujours, quand vous êtes invité, comme je le suis aujourd'hui sur un plateau télé, la question, qu'est-ce qui va se passer demain ?
À la radio. Mais alors, attendez, si je vous comprends bien, donc la guerre, l'intervention militaire ne marche pas, la diplomatie non plus, mais alors que reste-t-il ?
Ben, il reste la guerre. Il reste la guerre, c'est-à-dire la compétition des radicalismes. Et là, c'est là qu'on est dans la pire des situations. Moi, cela dit, les attaques de drones, si vous voulez, ont été incroyablement nombreux, mais incroyablement inefficaces. Mmh. Vous avez 99%, je ne suis pas sûr que les Iraniens puissent renouveler
tous les jours. Ou alors, c'est la défense aérienne israélienne,
oui,
et puis la coalition qui a été très efficace.
Mais cela dit, est-ce que vous croyez que les Iraniens peuvent renouveler ce genre d'exercice tous les jours ?
Alors, à l'instant, l'Iran affirme, si Israël ne répond pas, nous serons quittes.
Ben oui, c'est ça.
Voilà. Mais je ne suis pas sûr que les Russes soient très enchantés, d'ailleurs, que l'Iran consomme de plus en plus de drones dont ils ont besoin en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quelque chose, bien sûr, humainement choquant dans le enfin, même si le 7 octobre était l'innommable de l'innommable, dans la disproportion de la riposte en termes de pertes humaines. Mais attention, là, on est justement en train de raisonner comme des Occidentaux à qui on ne fait pas la guerre, au sens où on peut nous faire disparaître. Les Israéliens sont dans cette situation. Hein, les Israéliens n'ont jamais oublié, pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt a dit « je ne fais pas la guerre des Juifs ». D'accord. Donc le monde entier a détourné le regard, ils sont exterminés jusqu'au dernier. Ils n'ont pas oublié cette leçon. Golda Meir a dit « désormais, les Juifs préféreront les reproches aux condoléances ». Et donc, eux, faire 30 000 morts, si c'est une question de survie, ils feront les 30 000 morts. Là où on peut les critiquer, les Israéliens, parce que la guerre est atroce, c'est pas sur ce terrain-là. Le problème, c'est que quel est le but politique, en fait? Parce qu'on fait aussi la guerre pour atteindre des buts politiques. Est-ce que réellement ils vont neutraliser et le Hamas en tant qu'idéologie, en tant qu'organisation, et en faisant ça, ils ne vont pas faire encore plus de rallier pour la cause en face? C'est ça le problème d'Israël, en fait. Et derrière, évidemment, il y a le compte à rebours démographique. C'est pour ça que je pense que de l'extérieur, on devrait évidemment non pas retenir la manche d'Israël, parce qu'on n'est pas à leur place, mais c'est vrai qu'on est tous embarqués dans cette histoire, parce que à l'arrivée, on a l'Iran qui joue sa carte pour redevenir une puissance, hein, c'est la Perse, elle veut redevenir la puissance dominante de la région. N'oubliez jamais, le Golfe Persique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on en parle rarement, mais les trois quarts des puits de pétrole dans cette région, c'est des tribus qui sont chiites en réalité, c'est des tribus perses, hein, c'est perse cette zone. Il y a des états arabes là qui contrôlent, mais en fait, ils contrôlent de manière assez fragile. Qu'est-ce que veut faire l'Iran? Redevenir une puissance, avoir l'arme nucléaire, etc. Mais c'est très dangereux, pourquoi? Parce que ces pays arabes, ils sont contents qu'Israël fasse le boulot à leur place. Mais ils ont leur propre population et il y a un effet de cocotte minute et ces populations, elles détestent Israël et plus cette vengeance se déploie et plus la pression monte dans ces cocottes.
Eh bien, on va en parler. C'est la fameuse, je mets beaucoup, beaucoup de guillemets, rue arabe. On va parler également des velléités hégémoniques. Qu'en pensez-vous de l'Iran et surtout de l'Occident pris au piège également avec une véritable poudrière sur place. Une courte pause et on se retrouve avec Pierre Conessa, Guillaume Bigot et d'autres intervenants en ligne avec nous pour ce grand rendez-vous spécial. À tout de suite. Merci de nous suivre en direct sur Europe 1, grand rendez-vous spécial après l'attaque iranienne sur Israël. Pluie de drones et de missiles, avalanche également de condamnations, dont celle des États-Unis, de la France. Bien sûr, l'attaque est qualifiée comme étant inédite, historique, une offensive directe du régime iranien sur le sol israélien. Et toute la question est de savoir quelle sera la suite. Peut-être un mot, c'est compliqué de connaître ces détails-là, Guillaume Bigot. On sait que pour défendre Israël, les États-Unis sont intervenus, la Grande-Bretagne, la France également, nous a confirmé tout à l'heure Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Comment la France a pu justement participer à cette défense contre les missiles et les drones iraniens?
Alors, soit c'est la marine française en Méditerranée, soit et en mer Rouge, soit ce sont des bases, on a une base aérienne aux Émirats Arabes Unis et une base aérienne en Jordanie où il doit y avoir des rafales et des éléments d'interception. Bon, donc on a soit pu donner des informations et peut-être se partager le travail avec les Britanniques, avec les Américains, parce qu'apparemment il y avait quand même beaucoup d'objets volants, certes très lents, Et donc facile à abattre d'une certaine façon, mais il y avait aussi des missiles. Hein. Et alors, un missile, à mon avis, enfin, pas trop m'avancer non plus, mais ça relève plus de mesures type les antimissiles patriotes, les choses comme ça, parce que là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite.
Alors, le risque d'internationalisation du conflit, Pierre connaît ça, avec des pays arabes qui sont évidemment dans la très, très grande retenue. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Égypte également. Tous ces pays-là, évidemment, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un embrasement dans la région et font tout pour que cela ne se passe pas. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous résumer, appréhender quelle est leur attitude vis-à-vis à la fois du régime iranien et de l'État hébreu ?
Ben, je crois que vous avez fait le constat, c'est-à-dire qu'effectivement, personne n'a envie que la guerre s'internationalise régionalement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'internationaliser autrement. Mais la Jordanie, rappelez-vous quand même qu'en 1947, c'était censé être l'État palestinien, la Jordanie. Bon, il n'y a pas eu de plus grand massacre de Palestiniens que Septembre Noir. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué plus de Palestiniens, ce sont les Jordaniens. Donc que la Jordanie, comment dire, fasse très attention à ne pas se mêler de ce genre de crise, on le comprend. L'Égypte est dans une attitude beaucoup plus incroyable puisqu'ils ont fermé la frontière de Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui non seulement crèvent de faim, qui sont sous le fait des bombardements. Je rappelle pour vos auditeurs que Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort. Le territoire de Belfort, il y a 30 000 personnes. À Gaza, il y a 1 300 000 personnes. Bon. Quand vous avez des bombes, comme il y en a eu, il y a eu une campagne où il y a eu 200 bombardements en 48 heures. Là, il y a effectivement 350 missiles dont aucun ne touche ses cibles. Par contre, je ne suis pas sûr que les 200 frappes aériennes n'aient fait aucune victime. Donc, encore une fois, il faut faire très attention. On est en train, à travers une victimisation qui remonte à la Shoah, de justifier des choses qui sont injustifiables. Si on regarde les victimes de chacun des côtés, on a une attitude, si vous voulez, qui peut être beaucoup plus critique vis-à-vis parfois d'une démocratie, et ça peut être le cas pour Israël. Donc, il faut être extrêmement
prudent. J'entends, mais est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous voyez une proportionnalité ? Nous avons quand même d'un côté une attaque qui n'est pas revendiquée par Israël d'un consulat iranien à Damas, et de l'autre...
revendiquée par Israël, il n'y a pas beaucoup d'avions qui attaquent en Jordanie.
Je le précise simplement pour nos auditeurs. Et puis, vous avez de l'autre côté, malgré tout, 350 drones et missiles qui se sont abattus directement sur le sol israélien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une proportionnalité dans la riposte ?
La riposte, oui, la proportionnalité. Il y a 16 morts dans le consulat iranien, il n'y a aucun mort en Israël. Moi,
Guillaume
je regarde Bigot, les victimes, si vous voulez, à chaque fois.
Guillaume Bigot, est-ce que tout cela était alors écrit à l'avance ? Est-ce que Israël s'attendait finalement à une telle riposte après avoir touché sur le sol syrien une annexe iranienne ?
Bah, à tout le moins, ils s'attendaient à fragiliser leur vis-à-vis iranien. Parce que s'il n'y avait pas eu de riposte du tout, c'était quand même la démonstration faite que ce fameux axe du refus, il n'était pas capable de faire grand-chose. Puisque là, c'était, je rappelle, en droit international, un consulat, une ambassade, c'est le territoire du pays en question. Après, me semble que le symboliquement, tout de même, si les Iraniens s'étaient tournés vers des objectifs diplomatiques israéliens à l'étranger, ou avaient atteint des intérêts, disons, israéliens à l'étranger, c'était pas la même chose que de riposter directement sur les territoires israéliens. Alors, on peut, évidemment, avec des si, on met pareil en bouteille, mais là, on peut se dire peut-être qu'en faisant le 1er avril, parce que nous n'avons pas, en fait, en réalité, on n'a pas ces informations, on ne sait pas pourquoi. Soit les Israéliens, si vous voulez, le 1er avril, ont pris un risque parce que ces objectifs, leurs cibles étaient tellement, tellement importantes pour eux et qu'il y avait des choses qui se préparaient, qui étaient tellement graves pour Israël qu'ils se sont dit, on saisit cette fenêtre d'opportunité d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, et quelles que puissent être les répercussions. Solution A. Solution B, non. Solution B, c'était presque un piège. En tapant ce consulat, ils voulaient d'une certaine façon que les Iraniens surréagissent et ça leur donnait à nouveau un prétexte pour en finir. Parce que l'obsession d'Israël, c'est quand même le programme nucléaire iranien. Que l'Iran chante soir et matin qu'ils veulent détruire Israël et qu'ils actionnent le Hezbollah, etc. C'est déjà un peu gênant. Mais vraiment, là où ça devient vital, c'est si l'Iran a l'arme nucléaire. Pour eux, là c'est une obsession. Donc tous les prétextes seront bons pour essayer d'entraver cette dernière étape. Parce que je pense que les Iraniens, là aussi, on n'a pas beaucoup d'informations, il faut être très prudent. Mais on a bien compris quand même qu'en matière d'enrichissement d'uranium, les Iraniens sont vraiment au seuil du seuil. Hein.
Si nous analysons les réactions à l'instant diplomatiques et géopolitiques qui nous parviennent, j'ai rappelé celle des États-Unis qui à la fois réaffirme son soutien indéfectible, inébranlable, mais ne veut pas qu'il y ait, Pierre connaît ça, une suite et qu'elle ne participerait pas, que les États-Unis ne participeraient pas à une quelconque offensive militaire. Nous avons l'Iran, il y a quelques minutes, qui affirme cette phrase quand même, hein, que le régime est quitte. C'est-à-dire que l'Iran ne veut pas pas aussi, semble-t-il, en tous les cas dans les mots, d'un embrasement régional, d'un point de vue iranien. Dire cela, qu'est-ce que cela signifie? Hier, il y a eu des scènes de liesse hein, dans différentes rues et grandes avenues de Téhéran, et pas uniquement.
C'était pas massif.
Quelques réactions, effectivement. Qu'est-ce que cela dit aussi de la volonté du régime iranien, qu'il a peur d'une suite, d'une conséquence qui peut être massive?
Je crois qu'il renvoie la balle du côté de Netanyahou en disant « voilà, nous sommes quittes ». Je suppose que les Iraniens ne connaissent pas les résultats de la frappe, puisque effectivement, 350 missiles à 99% détruits, je suppose qu'il doit y avoir des films à la télévision iranienne pour montrer l'efficacité du tir. Donc ces manifestations sporadiques, effectivement... Vous savez, les Iraniens, depuis 79, ont quand même connu une histoire assez lourde. Ils ont eu la guerre contre l'Irak, dans laquelle nous, occidentaux, je vous signale qu'on a soutenu l'agresseur et on a mis sous embargo l'agressé. C'était l'Iran quand même, donc en droit international c'est une nouveauté. Ensuite ils ont eu des tas de problèmes avec les invasions en Afghanistan, etc. Donc il faut quand même se rendre compte que l'identité iranienne, qui est quand même une identité très forte, c'est 2000 ans d'histoire l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite. Et donc vous avez quelque chose dans laquelle, encore une fois, il faut jouer sur cette identité pour faire comprendre qu'effectivement il y a une modération, il y a des éléments à prendre en compte, et pas seulement penser qu'une réplique est absolument indispensable. On va voir ce que Netanyahou va décider.
Où sont les alliés de l'Iran? Qu'en est-il du Hezbollah? Est-ce que cette attaque de drones et de missiles a été, alors difficile de le dire hein, évidemment depuis ce studio, mais est-ce qu'on peut penser, Guillaume Bigot, qu'elle a été coordonnée notamment par le Hezbollah libanais?
J'ai du mal à croire que le Hezbollah libanais ou les Houthis ou les milices en Irak font quoi que ce soit, que notamment les gardiens de la révolution ne veulent pas qu'ils fassent. Il les contrôle très très étroitement. Il faut aussi expliquer, quand même rappeler que l'Iran n'est pas un bloc monolithique. Alors aucun pays n'est un bloc monolithique. Vous voyez, tous les pays sont traversés par des courants différents, mais là c'est institutionnalisé. Donc vous avez en arrière-fond un pouvoir religieux qui sanctifie ou qui bénit, si vous voulez, un peu ce qui se passe, qui est un clergé dans l'islam chiite. Et puis vous avez un gouvernement avec un président élu, un parlement. Ça, c'est ce qu'on connaît, nous, en Occident. Hein. Mais ce qu'on ne connaît pas en Occident, c'est ces fameux gardiens de la Révolution. Ces gardiens de la Révolution, c'est vraiment un État dans l'État. Donc ils ont une armée à eux, c'est plus de 130 000 hommes, ils ont des entreprises, ils contrôlent les télécommunications, ils contrôlent l'énergie, et ils ont une marge de manœuvre en tant que telle, si vous voulez. Ils peuvent faire des choses avec lesquelles le gouvernement iranien n'est pas tout à fait d'accord. Et là, il y a quelque chose de complexe, parce que l'intérêt d'Israël, l'intérêt de, on va dire, l'intérêt du monde entier, d'une certaine façon, c'est qu'un jour ou l'autre, les Iraniens fassent leur cutie, virent leur cutie, d'une certaine façon, et qu'on sorte de cette longue séquence interminable de la révolution iranienne, etc. Et peut-être les Iraniens sont-ils d'accord pour faire ça, mais à chaque fois que vous avez vu qu'ils se sont révoltés, ils ont été écrasés dans le sang. Et par qui? Par ces fameux gardiens de la Révolution. Le danger, c'est quoi? C'est de riposter sur l'Iran. L'Iran est un pays, vieux pays très patriote, avec un État fort, et les Iraniens peuvent faire bloc. Là, pour le coup, ils peuvent prolonger l'agonie, en quelque sorte, du régime, enfin, qui a l'air quand même de tenir bon. En sens inverse, la chance du monde occidental en général, qu'est-ce que c'est? C'est que l'islam est profondément divisé. Alors, depuis le départ, chiite, sunnite, on va pas revenir là-dessus, mais il est divisé aussi parce que dans le monde sunnite, et en particulier en cette région, on a bien vu que les gouvernements ne sont pas tout à fait d'accord avec les populations. Et la chance qu'on avait, c'est que les islamistes, qui ont pénétré dans ces populations, vous parliez de la fameuse rue arabe, elle n'est pas que islamiste, faut pas la caricaturer, mais les islamistes quand même ont une pénétration dans le tissu social depuis longtemps, des décennies. Les islamistes, ils nous détestent, ils détestent Israël, ils détestent l'Occident, mais ils détestent encore plus les chiites. Et c'est ça qui est compliqué. Et en fait, l'Iran, eh bien, utilise ce ressentiment des populations arabes contre leur gouvernement pour essayer de les faire tomber. Et regardez ce qui se passe. Ils ont un peu actionné probablement le Hamas avec le 7 octobre. Et regardez l'onde de choc, y compris jusque dans nos banlieues, de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est l'Iran qui est derrière? Pas exactement, mais ça sert les intérêts de l'Iran.
Évidemment, le conflit a été transposé, comme on dit notamment en France. On marque une courte pause et continue à en parler avec vous, Pierre Conessa et Guillaume Bigot. Vous nous direz ce qu'il en est, parce que depuis des semaines, Israël est isolé sur la scène internationale à cause de la guerre à Gaza, que certains commencent à estimer comme étant illégitime. Que va-t-il se passer à présent? Alors que je vous rappelle, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, vient de déclarer que tout son soutien, évidemment, à Israël, et que la France était très attachée à la sécurité israélienne. Donc, quel changement aussi par rapport à Gaza. Nous serons également en direct et en ligne avec Mona Jafarian, qui est présidente de l'association Femmes Azédis. Elle est iranienne. C'est important aussi d'entendre la voix des femmes iraniennes. Une courte pause et on se retrouve. Un grand rendez-vous spécial quelques heures après l'attaque iranienne sur le sol israélien. Et la grande question que nous posons à nos invités avec Guillaume Bigot et Pierre Conessa, c'est quelle sera justement cette riposte, la nature de la réaction israélienne. Les grandes capitales occidentales ont réagi condamnant une telle attaque, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Et évidemment, nous allons nous rendre dans quelques instants aux États-Unis avec notre correspondant sur place. Mais tout d'abord, nous sommes en ligne et en direct avec Mona Jafarian. Bonjour à vous, Madame Jafarian. Vous êtes la présidente et cofondatrice de l'association Femmes Azedi. On a l'habitude de vous entendre sur les combats, évidemment, pour la liberté, pour les femmes iraniennes, contre l'islamisme. On voudrait avoir votre réaction ce matin. Comment vous avez et comment vous vivez ce qui est en train de se passer dans la région et après cette attaque iranienne?
Eh bien, je dois vous avouer que aujourd'hui, je vais me permettre d'être la voix du peuple iranien, puisque c'est important pour nous et c'est le but premier de notre association. Il faut savoir que ce soit nous ou le peuple à l'intérieur du pays, il était très important de faire savoir au monde que cette attaque est celle de la République islamique et pas celle de l'Iran, puisque l'Iran appartient au peuple iranien et que le peuple iranien est le premier à condamner ces attaques. Maintenant, on le vit forcément très mal, puisqu'on sait qu'il y a une riposte possible, mais on sait aussi que le régime de Téhéran, via ses proxys terroristes, cherche le conflit depuis maintenant très longtemps. L'idéologie même de la République islamique est dans son slogan, qui est « mort à Israël, mort aux États-Unis et mort à l'Occident ». Donc finalement, rien de surprenant dans cette escalade, puisqu'on sait que le régime est bien déterminé à mener son idéologie à bout.
C'est important ce que vous dites, Mona Jafarian. On a vu quelques scènes de joie, de liesse, d'applaudissements dans certaines rues en Iran. Et évidemment, comme dans tout pays, il ne s'agit pas d'en faire une lecture totale et d'essentialiser ce que pense une population. Mais votre voix est là pour dire et pour affirmer que, évidemment, ce n'est pas la voix du régime iranien.
Alors, les scènes de liesse, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de scènes de liesse, puisque si vous prenez juste Téhéran, c'est 12 millions d'habitants et il n'y avait même pas 10 000 personnes dans la rue. Et les personnes qui sont dans la rue sont des miliciens du régime. Il faut savoir que la République islamique est très forte en propagande. Si vous regardez aujourd'hui les médias de la République islamique, alors pour nous, c'est très important de dire toujours République islamique et non pas Iran. Vous avez l'impression qu'ils ont frappé Israël partout, que ce fut une attaque qui a totalement réussi. Et ce que vous voyez aujourd'hui, qui sont des vidéos qui sont propagées par le régime lui-même, sont faits justement pour faire croire au monde que le peuple iranien est derrière le régime et que hier tout le monde se réjouissait de ces attaques. La réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens qui condamnaient les attaques, qui se moquaient de ce régime et qui les ridiculisaient. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous que les gens aient conscience que les images qui proviennent aujourd'hui de la République islamique ne sont pas la réalité du terrain, puisqu'on est aujourd'hui face à un régime qui a contre lui son peuple, puisqu'on estime qu'ils n'ont plus que 10% de partisans à l'intérieur même du pays.
Et est-ce que vous craignez, Mona Jafarian, déjà que la situation est extrêmement difficile, c'est un euphémisme évidemment, une réaction encore plus forte par rapport à son propre peuple, justement du régime islamique d'Iran? Vous vivez à l'étranger, aujourd'hui vous êtes né en Iran, vous avez beaucoup de contacts sur place. Est-ce qu'une telle attaque peut participer à un chamboulement intérieur aussi à l'intérieur du régime?
Alors écoutez, la République islamique n'a pas attendu les frappes, puisque ça fait déjà quelques temps qu'elle a augmenté à nouveau drastiquement la répression. Il faut dire qu'à l'intérieur même du pays, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur en ayant la vision d'un régime inébranlable, ils sont énormément fragilisés. Ils ont du mal aujourd'hui à avoir l'appui du peuple. Donc la répression contre les femmes s'est accentuée terriblement. On est face à des tentatives désespérés de propagande où on fait venir des figurants d'autres pays frontaliers pour remplir des stades et filmer de fausses cérémonies. Donc si vous voulez, c'est un régime qui est profondément aujourd'hui mis à mal. Si vous voulez un exemple flagrant, on estime que un tiers des mosquées ont déjà fermé. Donc il y a une espèce de rejet massif du régime, de l'idéologie et même de la religion. Et c'est vrai que les Iraniens sont en train de hurler au monde. Nous ne sommes pas la République islamique et nous rejetons la révolution continue. Donc on a vraiment énormément de résistance dans les rues, partout dans les stades. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de relayer sans cesse que ce combat n'est pas terminé et que cette révolution est toujours en cours, même si elle prend des formes différentes. Et le régime est plus que jamais fragilisé de l'intérieur, d'où ces tentatives désespérées d'exister via ces proxys terroristes.
Merci alors Mona Jafarian d'avoir porté justement la suite et cette révolution, votre combat en direct sur Europe 1. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente et la cofondatrice de l'association Femmes Azedi. Et c'est vrai que cette analyse de Mona Jafarian nous éclaire. Je disais tout à l'heure, ces scènes de liesse, évidemment, elles sont à relativiser, Guillaume Bigot.
Oui, on a eu d'ailleurs, on en a assez peu parlé en France, mais il y a eu des mouvements de foule en faveur d'Israël, aussi surprenant que ça puisse paraître, en Iran, dans des stades en Iran, parce que le gouvernement, en fait, les Iraniens sont pas nécessairement très des sponsors d'Israël, mais les Iraniens en ont assez d'être opprimés, ça c'est sûr, et en ont assez que leur gouvernement utilise Israël comme un prétexte pour les opprimer précisément. Donc à un moment, cette propagande, elle devient extrêmement contre-productive. Bon, après, on a ce qu'on a appelé les révolutions arabes, il faut pas oublier que ça a démarré en Iran quand même. C'est là où je pense c'est le peuple iranien qui est problème le plus mûr pour se démocratiser. Tout le problème est là, c'est qu'on ne peut pas, la démocratie, c'est pas une plante en pot qu'on peut transposer. Il faut qu'il y ait des racines, ça met vraiment des siècles à s'installer, la démocratie. Quand on a bombardé l'Allemagne, il y a eu ensuite la démocratie. Non, il y avait déjà des prodromes de la démocratie avant. C'est vrai que ça a fonctionné. Donc, on va pas bombarder des pays, on l'a fait 10 fois, en Libye, en Irak, etc. Puis dire, ah, tiens, c'est bizarre, la démocratie n'arrive pas. En Iran, je pense qu'il y a vraiment des quelque chose de plus profond qui se passe et un bouleversement.
Et le principal soutien israélien qui sont les États-Unis réaffirment leur solidarité tout en mettant en garde contre finalement une réaction en chaîne. Que s'est-il passé ces dernières heures justement aux États-Unis? Nous y sommes avec notre correspondante Europe 1 sur place, Aviva Fried.
Oui, Joe Biden, qui était en week-end, est rentré d'urgence à la Maison-Blanche, où il a passé une partie de l'après-midi et de la soirée enfermé dans la Situation Room, la salle de crise, avec notamment le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense et le patron de la CIA. Sur le terrain, l'armée américaine a aidé Israël à abattre au moins une douzaine de drones et de missiles iraniens. Joe Biden s'est également entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de la réponse à apporter à cette attaque, que certains souhaitent implacable, comme le représentant républicain Mike Lawler, interrogé par CNN.
Nous devons absolument collaborer avec les Israéliens pour détruire les capacités nucléaires iraniennes. Le monde n'a pas été dans une situation aussi périlleuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons être Winston Churchill, la victoire à tout prix.
Les États-Unis sont dans une position d'équilibriste. Ils doivent se montrer très fermes face au régime des Mollahs, mais ils ont aussi tout intérêt à plaider l'apaisement pour éviter un embrasement général. L'attaque iranienne aura en tout cas fait bouger le Congrès américain. L'aide à Israël, bloquée depuis des mois, pourrait être votée dès la semaine prochaine.
Position d'équilibriste, comme le dit notre correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Je vous rappelle la réaction française ce matin. Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux: je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Ce même mot qui est utilisé par beaucoup de capitales occidentales après cette attaque iranienne sur Israël. Je vous rappelle qu'une pluie de drones et de missiles a touché le sol israélien, avalanche de condamnations. Et toute la question à présent est de savoir quelle sera la riposte de l'État hébreu, quelle en sera la nature. Benjamin Netanyahou réunira son cabinet tout à l'heure à 15h. Nous avons eu tout à l'heure en ligne Olivier Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui nous a rappelé aussi les dégâts précisément disons-le, ils sont minimes, fort heureusement, évidemment. Dégâts militaires, pas de bilan humain. Le mot historique a aussi été employé pour qualifier cette attaque inédite. Et avec vous, Pierre Conessa et Guillaume Bigot, nous avions rappelé aussi qu'il y avait eu cette attaque du régime, en tous les cas d'un consulat iranien à Damas. Probablement est-ce la réplique hier, réplique très très importante. Nous attendons ce qui lancera peut-être un mot de conclusion pour la suite. Est-ce que, pour reprendre ma première question, vous qualifiez quand même cela de moment inédit dans l'histoire aussi du Proche-Orient, vous qui connaissez parfaitement cette région, Pierre Conessa?
Oui, c'est un moment inédit dans le sens où effectivement c'est une confrontation directe qui n'avait jamais eu lieu entre l'Iran et Israël. Bon. Donc là c'est quelque chose qui effectivement mérite qu'on s'y arrête. Cela dit, moi ce qui me frappe beaucoup dans la région, c'est qu'il y a une dimension de la diplomatie iranienne qui est quand même cette rivalité avec le monde sunnite. Si vous regardez la carte, vous avez aujourd'hui une rivalité sunnite-chiite en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen et même au Nigeria. Et donc vous avez effectivement quelque chose qui est une guerre que nous ne connaissons pas, parce que nous, ça ne nous concerne pas directement, mais qui est une variable importante dans cette rivalité. Et dans cette rivalité avec le monde sunnite, il y a aussi l'idée de l'identifier comme le meilleur défenseur d'Israël. Voilà. Donc tout ça, c'est une espèce de guerre de billard à trois bandes. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse arrêter la boule blanche. Quoi.
Non, et avec beaucoup de conséquences, le mot de la fin également, Guillaume Bigot, ces guerres dans ce Proche-Orient, dans le Moyen-Orient et Proche-Orient compliqués, nous touchent aussi au premier chef, avec des conséquences politiques, géopolitiques, économiques aussi.
Ah ben, c'est sûr. Là, il y a quelque chose qui est quand même étonnant, c'est que si on regarde l'ouverture de ce second front et de cette crise du 7 octobre, ça a déjà eu un effet très notable. C'est que vous avez remarqué qu'après le 7 octobre, les États-Unis quand même soutiennent beaucoup moins l'Ukraine qu'avant le 7 octobre. Donc on comprend bien que les États-Unis, qui avaient déjà été en saturation de production de munitions uniquement pour les Ukrainiens, maintenant qu'ils doivent fournir des munitions à bloc aux Israéliens, ils peuvent pas les fournir aux Ukrainiens. J'ai pas dit que la Russie était derrière le 7 octobre. J'ai dit que ça fait bien leurs affaires en tout cas. C'est le premier point. Deuxième point, vous savez, les historiens, si l'histoire apprend vraiment quelque chose, c'est que l'imprévisible arrive, l'inattendu arrive, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Il peut sortir tout. Le meilleur, l'effondrement du régime iranien, le pire, un embrasement, ou rien d'ailleurs. Personne ne peut le savoir à ce stade.
En tous les cas, merci d'avoir analysé l'imprévisible avec nous pour un grand rendez-vous spécial sur Europe 1 en direct. Restez avec nous, une courte pause et vous allez retrouver William Lémergie. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À très bientôt.